être plus proche de vous, RCN se délocalise.
RCN se délocalise.
Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 10e édition du festival Le Haut du Livre. Et comme chaque année, nous accueillons le parrain du festival, Daniel Picouli, qui va avoir la rude tâche aujourd'hui de rencontrer une classe qui a travaillé sur ses œuvres. Et nous avons donc autour de nous l'enseignante de cette classe, Madame Doucène, du collège Jean Lamour, une classe de quatrième, d'où sont venus quatre élèves. Alors, cinq, je ne sais plus compter, moi. Et avec madame la documentaliste, voilà, mais je confonds les enseignantes et les élèves. Bon, c'est peut-être pas plus mal après tout. Hein.
Ils sont tous jeunes, c'est ça que ça veut dire.
Oui, et fringants, voilà. Donc, en tout cas, nous sommes quasiment une dizaine autour de la table. Et donc, pour commencer, je vais laisser tout ce beau petit monde se présenter. Et puis ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet sur le choix de l'œuvre, les travaux qui ont été effectués, les questions qu'ils ont à poser, et puis les retours tant attendus du maestro. Voilà. Maestro, on est prêt ?
Maestro, prêt.
Bon, super. Alors, on fait un petit tour de table pour se présenter. Qui est-ce qui commence ? Hop, hop, hop. Et voilà. Vas-y, vas-y.
Bonjour, je m'appelle Ethan, je suis en quatrième et je suis très heureux d'être ici.
Bon, on va garder les questions pour après, là on va juste se présenter pour le moment.
Bonjour, moi je m'appelle Shaima, j'ai 13 ans, je suis en quatrième et c'est un plaisir d'être ici avec vous.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Tasnim, je suis en quatrième et c'est un plaisir même si j'aimerais dormir.
Ah bon, quoi, tu es fatiguée ?
Bah oui.
Ah, tu as fini le travail peut-être cette nuit, c'est ça ?
Non, parce que j'étais au théâtre.
Ah, alors parlons-en, tu as vu quoi ?
J'ai vu L'Avare.
De Molière ?
Oui.
Et alors ?
C'était trop drôle, j'ai aimé.
Super.
Est-ce que tu as retrouvé la cassette ?
Oui, on l'a retrouvée.
Non, bon, ça va. Alors.
Viens, on continue ?
Bonjour, je suis Madame Le Sourd, professeure documentaliste au collège Jean Lamour.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Gabriella. Et voilà.
Gabriella et voilà. C'est pas courant comme nom c'est de famille. Et à côté d'elle.
Bonjour, je suis Madame Doucène, donc professeure de français au Collège de l'Amour.
Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Asma.
Ah, parle bien devant le micro. Avance-toi.
Bonjour, moi je m'appelle Asma et je suis l'une des plus belles et des plus intelligentes filles du collège.
Ah ben voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, maintenant on le sait. Et alors à ma droite, le jeune homme avec le chapeau.
Ouais, mais je ne sais pas si je suis le plus beau du collège, mais par contre, je ne suis pas sûr, donc... Bon, je vais faire avec ce que j'ai, comme vous tous, hein, faut faire avec ce qu'on a. On a ici une star, donc on va voir un peu si les questions sont à la hauteur. Hein.
Voilà. Alors, les questions, on va entrer dans le vif tout de suite. Alors, quel est l'ouvrage ou les ouvrages que vous avez choisis pour rencontrer Daniel Picouli et travailler sur ses livres ?
Alors, on a choisi le livre « Et si on redessinait le monde ?»«
Et si on redessinait le monde ?» D'accord. Et pourquoi ce choix ? Ah.
Parce que ça parle des sujets que nous aussi, ça nous touche. Et qu'on peut tous essayer de faire en sorte que le monde va mieux.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous touche, par exemple, dans un livre comme celui-là, précisément ?
Déjà, le fait que ce soit fait sur des poèmes et que ça parle de sujets importants, c'est fait pour nous sensibiliser, mais en même temps, c'est beau à lire.
D'accord. Alors, ces sujets importants, c'est quoi ? Et en quoi ils vous concernent ?
Par exemple, la déforestation.
Oui.
La famine dans le monde aussi.
Oui. Voilà, c'est les principaux encore ?
La pollution. D'accord. De la planète.
Oui, oui, oui.
Et les guerres aussi.
Et les guerres. Bon, ça fait déjà un programme bien chargé. Hein, si on veut refaire le monde, je ne sais pas par quoi il faudrait commencer. La priorité, ce serait quoi, selon vous ? Si on peut déterminer une priorité à toutes ces catastrophes.
Ça serait peut-être les guerres pour éviter encore plus de pollution, parce que les guerres polluent déjà assez.
Eh oui, effectivement, c'est lié. Avant de poser peut-être des questions précises, que je vois que vous avez préparé plein de questions pour l'auteur, est-ce que, Daniel, tu veux réagir à ce choix ou à ce livre pour en dire un mot ?
Non, ça me paraît tout à fait correspondre au projet. Il faut aussi associer Nathalie Novy. Nathalie Novy, c'est elle qui a réalisé les illustrations de ce texte, mais ce sont ces illustrations qui ont commencé l'aventure de ce texte. Nathalie voulait, elle avait une envie simple, mais qui n'est pas simple à réaliser, c'était de remettre les enfants au centre du monde. Parce que, comme vous le voyez, il suffit d'écouter les actualités pour s'apercevoir qu'on parle en ce moment d'un certain nombre de guerres, de catastrophes, et on oublie parfois, et même un peu trop souvent, que beaucoup d'enfants sont victimes de tout ce qui se passe actuellement quand vous ouvrez votre télévision. Donc ce qui fait que cette sensibilité de Nathalie rejoignait la mienne, où je trouve effectivement qu'on oublie un peu trop parfois les enfants. Donc on a voulu, alors il y a plusieurs, après moi je suis un prof, donc j'ai toujours un propos pédagogique, si je puis dire, c'est-à-dire que ce texte a une forme qui se veut partageable, c'est-à-dire que c'est ce texte que vous avez lu, il a été étudié dans pas mal de classes, et il nous est revenu, par exemple, des poèmes, comme vous les avez appelés, et des illustrations. Parce que moi, j'ai choisi, et vous l'avez peut-être repéré, certainement, une structure qui se répète sur chaque texte de façon à ce qu'il puisse être reproduit. Ça, le but de tout ça, c'est d'avoir envie de raconter son histoire à travers une carte et à travers un poème. Et en tout cas, ça fonctionne. C'est un texte qui a été même réédité et qui fonctionne dans les classes. Donc, ça me fait plaisir de voir que c'est un texte vivant. Vous savez, on écrit plein de textes qui n'ont pas ce devenir-là. Quand un texte est repris, étudié, ça veut dire qu'il est vivant et qu'il a trouvé sa place. Et ça, on en est toujours très fiers. Donc, je voulais rappeler, Nathalie Novy, c'est quelqu'un de très bien, si je puis dire. Et j'espère qu'un jour, elle sera une invitée ici, parce que vous découvrirez quelqu'un d'assez extraordinaire. Voilà.
Très bien. Alors, peut-être pouvez-vous nous dire comment vous avez travaillé sur ce livre, par quel bout vous l'avez pris ?
On était en groupe.
Oui.
On devait lire des poèmes et on devait choisir celui lequel on préférait.
Oui.
Et ben après, on devait lire devant toute la classe et donner pourquoi on le préférait.
D'accord.
Après, on a travaillé sur la déforestation.
Oui.
Sur le poème de l'Amérique du Sud. Et après, on a choisi trois poèmes. Et voilà.
D'accord. Vous avez choisi trois poèmes, donc. Et à partir de ces trois poèmes, vous avez. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez questionné le texte, les illustrations ? Comment vous avez procédé ?
À partir de ces poèmes, ça nous a inspirés parce que nous aussi, on a pu écrire nos propres poèmes. Et on s'est rendu compte qu'on avait une grande inspiration parce qu'on a pu dire des trucs très touchants qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu dire ça.
D'accord. Et vous allez nous les faire entendre ?
Quelques-uns.
Oui ?
Donc voilà, en fait, on a travaillé donc sur plusieurs heures et à chaque fois, donc on repérait le thème principal du poème et les élèves ont marqué au tableau tout ce qui leur venait en tête oui. par rapport à ce thème. Et donc, après, c'était libre à eux de choisir un thème et de faire une production écrite, en fait, sur ce thème. Et on s'est rendu compte que, en fait, c'est pas seulement les élèves là, mais c'est vraiment toute la classe
D'accord.
qui a travaillé. Hein. Donc, on est une vingtaine. Et donc, c'est Madame Lesourd, je tiens à signaler, qui nous a conseillé ce livre.
Ah,
donc,
voilà.
La documentaliste. Oui, donc, elle nous a dit que c'était un très beau livre et que, justement, ça irait parfaitement avec les élèves de 4e et par rapport au thème. Et donc, après, voilà, ils ont fait des productions écrites qu'on a,
eh ben, on a remises. On est très impatients d'en entendre déjà une. Qui est-ce qui veut lire l'une de ces productions écrites sous le regard et l'oreille attentive de l'auteur ? Alors, est-ce que ce que tu vas lire, est-ce que c'est toi qui l'as écrit ?
Oui, c'est moi, je l'ai fait.
Voilà.
C'est pour ça, c'est bien.
Alors, parle bien devant le micro.
Génération future, nous tenons à vous faire part des circonstances d'aujourd'hui et à vous avertir des problèmes du monde. Soyez respectueux les uns envers les autres. À l'heure où je vous parle, en 2026, notre planète est en train d'être détruite. De plus en plus,
Les guerres s'accumulent, créant énormément de morts. Il y a des génocides en RDC, République démocratique du Congo, en Palestine et au Soudan. Des pauvres innocents meurent, des bébés se font tuer, des mamans se font violer et personne ne leur vienne en aide. Alors, vous, future génération, vous pouvez changer le monde et écrire une nouvelle histoire. Prenez soin de notre planète et de toutes ses merveilles. Des forêts brûlent, des animaux sont en voie d'extinction, les eaux montent et la terre se réchauffe. Malgré tous ces problèmes, je crois en vous, je sais que vous pouvez changer le monde.
Merci, merci beaucoup et bravo. Ouais. Allez, on applaudit. Une réaction, Daniel, peut-être ?
Oui, c'est-à-dire que quand on écrit, enfin en tout cas pour moi, j'essaie de dire des choses très sérieuses de façon légère. C'est-à-dire que vous avez tous reconnu une forme qui est une forme poétique, qui est une forme qui a été destinée à être dite à haute voix, à s'entendre. Peut-être j'en lirai un pour le montrer. Et ensuite, vous en tirez, et c'est ce que je constate, des choses qui pourraient être considérées de l'ordre du politique, c'est-à-dire de comment on organise la cité, comment on s'inscrit dans sa cité. La politique, c'est la gestion de la cité au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'on lit des textes qui ont l'air de rien. Et ça, c'est très important parce que vous ne heurtez pas les convictions de chacun. Ça les révèle et ça vous donne la possibilité même de les exprimer. C'est ça la fonction de ce texte, et c'est ce qu'il a produit, et ça, c'est toujours assez émouvant. Mais bien sûr qu'il y a un propos de la part de Nathalie Novi et de moi qui s'insurge sur tout ce qui se passe autour des enfants dans le monde, et c'est pas l'actualité qui va nous en décrocher, c'est de pire en pire. En ce moment, on est d'accord. Donc, c'est important, sans que ça ait l'air d'un manifeste. Ce n'est pas un manifeste ni un tract politique qu'on aurait pu distribuer au moment des élections. C'est un texte qui ouvre la possibilité de parler, de s'exprimer, de dire. Et c'est aussi profond ce que vous en avez fait, ce que vous en dites, ce que vous avez écrit, que ce qu'on espérait. Donc, nous, on est plutôt fiers de ça. L'idée, ce n'est pas d'avoir écrit un texte et c'est tout. Non, c'est écrire un texte et maintenant, il faut qu'il vive. Et c'est vous qui le faites vivre. Et ça, bien sûr, me plaît et m'émeut.
Merci. Merci, Daniel.
C'était soit d'écrire une lettre aux générations futures, soit un discours. Ouais. En fait, pour les générations futures. Et donc, les élèves ont choisi soit une lettre, soit un discours. Et ils l'ont présenté, en fait, devant la classe. Ils ont lu leur propre production devant toute la classe.
Ah oui, ça a déjà été présenté devant la classe.
Devant la classe, lu tout simplement devant la classe, en fait.
Ouais, bravo. Merci beaucoup. Alors, on entendra d'autres propositions au cours de l'émission, mais je sais que vous avez préparé beaucoup de questions pour Daniel Picouli. Alors, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez les lui poser. Qui est-ce qui va commencer ? Ethan, je crois.
Ouais. Oui. Monsieur Picouli, pourquoi vous avez écrit ce livre ?
Est-ce que j'ai commencé à y répondre ? Je l'ai écrit... Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, à l'origine, c'est Nathalie Novi. C'est-à-dire, ce sont des dessins, ce sont des illustrations. Nathalie Novi, c'est son art, c'est sa qualité, c'est sa façon de dire le monde, c'est de le peindre. D'accord ? Et un éditeur, parce que ça se passe comme ça, s'est dit, Daniel, regarde, est-ce que ça t'inspire quelque chose et ça m'a inspiré les textes qui sont là. C'est une proposition. On a tous, en tant qu'écrivain, des propositions comme ça. Et j'ai trouvé celle-là parfaitement appropriée. Après, moi, c'est de trouver une forme qui soit douce, poétique et reproductible. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est que quand on a lu ces textes-là, on voit la structure, comment c'est fait. Il faut regarder comment c'est fait les choses. Pourquoi ? Parce que ça sera à vous de faire un jour, d'une manière ou d'une autre. Donc, de voir comment c'est fait, parce que tout ce qu'on vous propose a des intentions un peu cachées dans la forme. Et on espère que vous allez intuitivement, à bas bruit, sans trop le dire, comprendre comment ça marche. Et si vous pouvez le reproduire, on en sera très fiers. Et je voulais faire une parenthèse, Madame la documentaliste, merci, parce que moi, je suis un prof et je sais combien de choses naissent chez les documentalistes, d'élèves qui rentrent dans le centre de documentation, ils ne savent pas très bien. Ils disent, dame, qu'est-ce qu'on pourrait lire, qui pourrait, on parle. Et puis, les documentalistes trouvent toujours une solution et ça donne ça. Donc, merci.
Voilà. Eh bien, il fallait le souligner parfaitement. Merci beaucoup. On passe à une deuxième question.
Une autre question, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée de redessiner le monde ?
Bah, écoute, bah, parce que je le trouve un peu mal fait, quoi. Hein, l'idée de redessiner le monde, c'est l'idée que le monde tel qu'il est ne te convient pas, ou vous convient pas, ou nous convient pas. Bon, forcément, il ne nous convient pas. Et le redessiner, c'est une ambition excessive. Hein, le monde, tu ne le redessines pas. Tu vas être dans ton petit coin, tu peux redessiner un petit bout du monde. Un petit bout du monde que tu partages avec les autres. Mais de petit bout de monde en petit bout de monde, bon, bah, peut-être que. Mais il s'avère quand même que ça ne suffit pas à ce que le monde de lui-même se dise « Ah bah oui, au fait, j'ai lu le bouquin, là, je ne suis pas comme ça, je vais essayer de ressembler au... » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais il ne faut pas renoncer à avoir fait sa petite part, tu sais, comme on dit sa petite part de colibri, comme on dit maintenant. Tu fais... Et tu sais jamais, moi je peux pas, et Nathalie Neuvy, quand on a réalisé cet ouvrage, penser que ça allait nous mettre en contact avec autant d'enfants, que ça intéressait, que ça interpellait autant d'enfants. On l'espérait, mais on sait jamais. Un livre, c'est vraiment une bouteille que tu jettes à la mer, tu vois. Et celui-là, bah, il a ce destin qui fait qu'on est, que je suis avec Nathalie en face de vous, là. Donc. On bosse, on avance, on a des envies et on a aussi, on se confronte avec la dure réalité, quoi, comme tout le monde, comme tout le monde.
Merci. Une autre question.
Alors, comment redessinerez-vous le monde en 2026 ?
C'est comment je dessinerai le monde en 2026 ?
Oui.
Écoute, tous les matins, en faisant ma gymnastique, j'écoute les informations, je regarde. Les informations, ça, à la fois, ça me permet d'être un petit peu plus souple, les exercices gymnastiques, et un peu plus au contact avec la réalité. Je sais que je ne refais pas le monde. Je sais que je le refais quand j'écris, je le refais quand je rencontre, mais je vois bien que le monde, il est un peu sourd d'oreille. C'est-à-dire que, curieusement, le monde ne m'écoute pas... ou n'a pas lu cet ouvrage-là. Il est d'une... Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de continuer à porter son regard sur le monde, ses propositions de solutions, de croire à la poésie d'un texte et qu'elle peut mener au-delà de simplement des déclarations, je disais, des tracts, des... Non. Peut-être que tout ça, ça s'insinue doucement. Moi, je vous regarde... Et à votre âge, moi, j'ai jamais eu un auteur qui est venu dans ma classe de quatrième. Je sais même, j'aurais adoré ça. J'aurais regardé comment il était fait, comment il était fringué, voilà. Parce que ça se faisait pas aussi naturellement qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une chance que c'est pour ça que moi je participe à ça. C'est que on est les enseignants en toute chose. On est de ces semeurs qui ne savent pas ce qui va lever. Tu sèmes, tu fais, tu sèmes, et c'est un très beau mot, semer, il y a dedans aimer, et tu ne sais pas ce qui va lever, tu ne sais pas ce que ça va faire. Ça peut aller de l'indifférence, de même l'opposition, l'agressivité, à des gens qui prennent conscience de... Bon, j'en sais rien, moi. Moi, je suis là devant vous, et je ne sais pas ce qui va lever. J'espère, je suis content que vous soyez là et qu'on puisse en parler, mais je ne sais pas. Et je n'aurai peut-être pas l'occasion, même si ça fait déjà 10 ans quand même, hein, 10 ans qu'on est là, donc il a bien dû se lever un certain nombre de choses à partir de ce qu'on a fait. C'est ce qu'on espère. Mais, on est humble. Il faut rester humble dans ce domaine-là. Faire, avec ferveur, mais rester humble.
Alors, je vous propose qu'on écoute une question et puis après qu'on lise à nouveau un texte qui a été produit. Et ensuite, mais je me disais que peut-être Daniel avait aussi des questions à poser aux uns et aux autres. Donc, on va procéder comme ça. Est-ce qu'on peut entendre donc une nouvelle production ? Vas-y, parle bien dans le micro.
Cette introduction.
Ah, un texte, pas la question.
Voilà, un texte qui a été écrit.
Il n'y a pas le mien.
Alors,
si, là, ça négocie.
Allez. Alors, on fait un choix. Voilà. Et c'est Asma qui nous le lit.
Oui.
Voilà, la plus belle et la plus intelligente, on le rappelle. Hein.
Hey, tu sais que tu as mis la barre haute, faut que tu sois à la hauteur. Hein.
Alors là, on t'attend. Hein.
Ah oui. Hein.
Je peux commencer?
Eh bien, quand tu veux, on t'attend.
Chère génération future, vous devez absolument arrêter vos mauvaises habitudes. On a déjà beaucoup pollué notre planète et d'ici quelques siècles, l'air deviendra irrespirable. Les océans seront recouverts de nos déchets, on ne pourra plus se déplacer et surtout beaucoup d'espèces maritimes ou certains oiseaux disparaîtront. Le climat sera beaucoup plus chaud et les glaciers fondront. On surconsomme trop les ressources naturelles et on n'en aura plus du tout. Quant à nos forêts, arrêtons de les polluer, elles sont importantes pour tous les êtres et sans elles, on mourra asphyxiés. Arrêtez aussi les guerres de religion ou à cause des origines, car tous des frères et sœurs, peu importe nos différences.
Et voilà.
Alors je vais me permettre de faire quelque chose. Vous allez me donner le bouquin, je vais lire le texte. Pour simplement essayer de vous, que dans votre façon de lire, vous fassiez entrer le temps. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus mangeant, de plus dévorant que de lire un texte rapidement. C'est-à-dire que vos textes, il faut les considérer comme des trésors. Ce sont des trésors, vous les avez produits. Vous les avez écrits, vous les avez réfléchis. Après, quand vous les mettez en voix, il faut considérer que tout le monde vous écoute, que tout le monde écoute tous les mots que vous dites, toutes les idées que vous mettez. Ne jamais donner le sentiment de vous débarrasser d'un texte. C'est précieux, un texte. C'est comme un môme, il faut l'entretenir, il faut faire attention à lui. Il faut être gentil. D'accord ? Et je comprends hein, que ce soit, ça puisse être délicat. Donc, moi aussi, je vais lire. Comme ça, moi, je pourrais dire, ouais, mais d'accord, mais alors, voilà. Mais ça, je vais le lire. Je ne sais pas lequel c'est, mais moi, si. Moi, si je pouvais redessiner le monde, je le ferais éclore comme un livre. J'écrirais sur chacun de ses pétales, rien qu'en posant les yeux, rien qu'en rêvant du bout des doigts. Des histoires sans frontières, des histoires et du bleu, et de la rose. Bien sûr, on me chuchotera qu'il n'est pas ainsi le monde, que ses pages sont froissées, déchirées, brûlées, qu'il est d'un vilain gris, qu'on doit s'en contenter, au lieu de s'écorcher les yeux à le rêver. Pas moi. Moi, si je pouvais redessiner le monde, je vous le ferais lire à haute voix. Écoutez. Faites ça. Les textes que vous avez écrits, ils méritent ça. Ils méritent ça. Doucement, gentiment. Le texte, il vous aime. Il n'y a pas de raison que vous ne l'aimiez pas. D'accord ? Il faut. Et disons que dans tout ce qui actuellement est valorisé dans l'expression orale, on parle beaucoup maintenant, on vous donne la parole pour que vous vous défendiez. Il y a plein de la lenteur. Dire, pensez que obligatoirement les gens vous écoutent. Que vous leur faites un cadeau. D'accord ? C'est ça, un texte, c'est ça, une lecture. N'hésitez pas. Vous verrez, ça vous fait du bien, vous aussi. Ça le fait entrer doucement, le texte, dans le corps. Je rends le bouquin, il n'est pas à moi.
Merci, Daniel. Eh bien, nous entendrons tout à l'heure une autre lecture des productions dont vous êtes les auteurs et autrices. Et voilà, on va voir si vous avez retenu le conseil. Daniel, est-ce que tu avais des questions, toi, à poser plus directement à ces jeunes gens
Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce texte, peut-être même dans la globalité du texte, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché, particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a une page, un texte dont vous vous sentez plus proche ou qui a un petit peu agité une sensibilité ou une émotion chez vous? C'est ça qui est... C'est-à-dire, là, c'est le moment où on doit élire, en quelque sorte, le texte qu'on a préféré dans cet ensemble de textes. Ça ne préjuge pas de dire ou savoir si les autres vous ont intéressé, mais un petit élu, un chouchou, tiens, un chouchou. C'est
alors,
bien ça.
Chouchou. Un texte chouchou?
C'est justement ce qu'on leur avait demandé à la dernière séance sur le travail sur les textes, de choisir en fait, d'essayer de choisir allez, 2-3 poèmes qui vous ont vraiment marqué et pourquoi. Ouais. En fait, donc ils ont travaillé ça
alors,
quels
ont
cette
été
semaine.
Les,
quoi.
Quels ont été les élus? Oui. Quels ont été les textes? Oui, vas-y.
Il y a l'Amérique du Sud, par rapport à la déforestation, à la forêt amazonienne.
Oui, ça c'est un texte qui a fait l'unanimité, c'est-à-dire que vous étiez tous
oui.
Et toutes d'accord là-dessus, ouais. Oui. Oui. Oui, vas-y, directement.
Il y avait aussi France géologique.
Pardon, France
géologie.
Ouais. Et là, pour quelle raison?
Bah, beaucoup de personnes ont aimé, parce que bah, ça disait qu'il ne fallait pas tout le temps comment dire.
Parle bien devant le micro.
Normalement, en parlant plus loin, on n'entendrait pas du tout.
Ouais, ouais.
Beaucoup de personnes ont aimé ce texte, parce que dans le texte, ça parlait du fait qu'il ne faut pas tout le temps être seul, qu'il faut essayer, comment dire, d'être tous les uns avec les autres, d'être unis.
Ouais. Et donc ça a été le... Voilà. Et il y avait un tiercé, il y en avait un troisième qui était aussi très proche de ces deux-là dans vos choix.
Ouais. L'Italie.
Et est-ce qu'il y en a un
oui.
que vous aimeriez lire?
Amérique du Sud.
Oui. Qui veut le lire alors, Amérique du Sud?
Shaima.
Ah ben voilà. Alors j'espère que Shaima, tu as bien retenu la leçon de lecture.
Tu as été élue. Hein.
En prenant ton temps, voilà.
Choisis, il a...
Sans se précipiter.
Je te dis.
Bon, après, c'est une copine, c'est pas toujours
eh ouais, sympa.
Hein. Prends ton temps, installe-toi, c'est important, physiquement.
Voilà, respire bien. Et parle bien près du micro, le plus possible. Voilà.
Moi, si je redessinais le monde, j'en ferais une forêt, de toute la palette des verts, d'un vert imbrûlable, d'un vert indéracinable, d'un vert inexploitable, d'un vert renouvelable, d'un vert inusable, d'un vert habitable. Vous me direz, vaguement agacé, qu'il faut bien brûler, déraciner, exploiter, que la forêt ne recule pas, que c'est le monde qui avance, que c'est dans la nature des choses et qu'il faut faire avec, pas moi. Moi, si je redessine le monde, partout où le vert flétrit ou se meurt, j'irai à main nue semer et planter, graine à graine, pousse à pousse, jusqu'à ce qu'il se lève une coulée d'un vert inarrêtable.
Merci, bravo.
Et pas mal ce texte.
Ouais, hein.
Mais, je voulais vous dire que il y a une chose que j'ai notée. Vous avez, moi, je parle de texte et vous parlez de poème. Je le comprends. Mais moi, c'est par humilité que je parle de texte parce que les poèmes, pour moi, j'ai une vénération pour les poètes qui parviennent à dire. Ce que les autres sont incapables de dire, ou tout simplement, comme on dit, de dire l'ineffable. Et ça, j'ai un grand respect pour ça. Donc, je parle d'un texte, mais je suis très heureux que vous y entendiez un poème, parce que c'est aussi ça, bien sûr.
Merci. Alors, est-ce qu'on peut reprendre nos questions? Parce que je crois qu'il y en a encore en abondance. Qui veut poser une question maintenant? Oui, vas-y.
Avez-vous écrit beaucoup de versions avant la version finale?
Est-ce que j'ai écrit beaucoup de versions avant c'est une sale manie. J'écris 10, 20, 30, 40, 50 fois les choses. C'est-à-dire, c'est un travail de... Tu regardes un ouvrier travailler le bois, tu vois. Il a commencé à la hache, puis après il a une pièce de bois, il la ponce. Il la ponce, il passe la main pour voir si c'est doux. Bah, le travail d'un écrivain, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'au début, oui, la hache, la serpette, tout, là, tu as la pièce de bois qu'il a devant toi, c'est ton idée, tu as une idée en forme de pièce de bois. Et tu commences par lui donner les grandes lignes, les grandes formes, d'accord ? Et tu en arrives à un moment où ça prend forme, et tu veux peaufiner, adoucir, tu prends... du papier de verre, doux, de plus en plus doux, et tu parviens à un texte qui te convient. Mais ce n'est pas plus que ça, c'est-à-dire un sentiment tactile. Ton texte, il faut qu'il soit doux. Il est là, il existe, il doit être fort, mais doux. Voilà, c'est ça. Et ça se construit comme ça, un texte. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à, quand vous avez une idée, quand vous avez envie d'écrire, vous y allez, vous y allez. Vous y allez, ça va être, et c'est normal, quand je vous écoute, ça va cogner, il va y avoir des arêtes, on sent. Mais essayez de le rendre plus doux pour le mettre à disposition des autres. Parce que vous, comme moi, on réagit parfois quand un texte il est trop dur, comme si quelqu'un voulait nous obliger à penser quelque chose qu'on pense déjà. Et si quelqu'un essaie de vous obliger, vous êtes normaux. Hein, vous êtes à votre âge... On n'est pas d'accord. De quel droit il va nous dire comment on doit faire, hein? Alors que moi, je suis un gros salopard. Je vous dis qu'avec la douceur, on y arrive mieux à dire les mêmes choses. C'est tout. C'est simple. Voilà. Mais il faut oser la tendresse. C'est pas de votre âge, je veux bien l'admettre. Mais essayez donc. Et vous verrez. D'abord, premièrement, quand vous avez quelque chose à demander à vos parents, donc sortir à telle heure avec les potes et tout ça, vous savez faire. Vous savez employer les mots doux. Hein, bon, alors, imaginez-vous que quand vous écrivez un poème, bah, vous aimeriez bien que, tout simplement, les parents ils soient d'accord pour que je rentre un peu plus tard que d'habitude. Voilà, bah, vous faites pas. C'est ça, un poème. Hein, c'est obtenir l'autorisation de ses parents de rentrer un peu plus tard. C'est une définition du poème qui n'est pas très classique, mais c'est comme ça.
Oui, mais qui est pratique et qui est originale. Merci. Alors, on va continuer notre tour d'horizon des questions. Qui a une question maintenant ?
Pensez-vous que les jeunes peuvent vraiment changer le monde ?
Pensez-vous que les jeunes puissent...
Bah, bien évidemment, qui pourrait le pas faire ? Bah, certainement pas les vieux. Les vieux, ils sont en train de le détruire. T'es d'accord ? Ils ont un boulot à plein temps. Ils détruisent le monde de tas et de tas de façons. Et vous êtes quoi ? Celui qui lui dit, bah, monsieur l'arbre, là, monsieur là, l'eau, là, monsieur là... Il dit, oh, qui c'est l'adulte, là ? Hein ? Qui c'est celui qui sait ? C'est pas toi, quand même. Tu vas quand même pas m'apprendre à détruire le monde, non ? Bon. Ah, tu veux pas le détruire ? Ah ben ça, c'est... Ça, c'est ton affaire. Si tu as l'énergie, si tu as la volonté, si tu as la force, ben vas-y. Mais ne me demande pas à moi de le faire à ta place. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Vous avez l'énergie, l'envie, le désir qui va de toute façon se buter contre la réalité. Et la réalité, parfois, c'est un peu plus âgé que vous, quoi, la réalité. C'est incarné par des vieux. Hein ? Moi, je suis un vieux, quoi. Voilà. Mais... J'essaie de glisser un peu, moi.
Une autre question ? Oui ? Allez.
Alors, une question choisie par les élèves, mais je suis désignée. Si vous deviez résumer votre message en une phrase, quelle serait-elle ?
Alors, résumer en une phrase, c'est un exercice castrateur, on va dire. C'est-à-dire que résumer en une phrase, c'est pas l'idée que ça n'a pas de sens. Je peux le faire, c'est une formule, j'adore les formules et disons qu'on se transforme facilement en publicitaire avec un slogan. D'accord ? Bon, ça c'est une possibilité, il y en a, vous en avez vu, les campagnes électorales, ça brasse des idées importantes et tout ça, et il n'empêche qu'on utilise des formules parce que ça cogne et puis parce que ça va être repris. Bon. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, je pourrais le faire, mais je voudrais que vous atteliez... justement à convaincre dans la forme, dans le ton, dans le slogan, vous verrez, ça a une esthétique toujours agréable d'abord. C'est esthétique, je vous dis. Moi, j'ai fait des études de marketing, de publicité, de tout un tas de choses, entre autres. Et donc, je vois à peu près quel sens ça peut avoir. Mais le problème d'une belle formule, c'est que ça risque de vous dispenser de réfléchir au-delà de votre formule. Et elle va vous plaire. Et elle va plaire aux autres. Et elle va vous résumer. Et on va s'en tenir là. Et ça, c'est ce qui fait que on gratte des pages et des pages, des dizaines, des centaines de pages. Moi, ce que je fais, je travaille, j'ai mon ordinateur. Là, tout à l'heure, j'arrive, j'écris. D'accord ? Mais il faut respecter... Depuis tout à l'heure, en fin de compte, je m'aperçois que je vous parle de la lenteur. Je vous parle du temps à intégrer. Je vous parle de... il ne faut pas avoir peur de cette espèce de lenteur qui est aujourd'hui peut-être mal porté parce que il y a plus de, on donne plus de crédit à ce qui punch, à ce qui cogne, à ce qui voilà. C'est vrai, c'est l'époque. C'est l'époque. Et si vous voulez avoir, il y a le terme punchline. J'ai un terme qu'on utilise. Ça veut dire quoi ? Qu'on va résumer peut-être un fait divers, peut-être une pensée politique, peut-être un drame avec une formule. Mais ça, c'est, on n'est pas tous CNews, ni BFM TV, ni voilà. Et heureusement, oui, dans une certaine mesure. Donc, s'il faut, je le comprends. Et si d'aventure c'était un exercice, faut le faire. Mais avec ce regard. Sur ce que ça a comme effet et ce que ça peut pervertir dans le... C'est écrire, s'exprimer, dire aux autres, c'est long, c'est lent, comme je vous dis, ça se ponce. Mais peut-être qu'au bout du bout, des fois, une formule... qu'est-ce que je pourrais dire ? Moi... En tout cas, si j'avais à parler de ce livre, je le remercierais mais très, 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 très longtemps pour toutes les rencontres qu'il m'a fait faire. Parce que c'est un médiateur, c'est un intermédiaire, c'est très puissant. Beaucoup plus puissant que ce qu'on aurait pu penser, hein, même par ailleurs, quand on a débuté ce livre-là. Et ça, j'ai une gratitude pour tout. Mais j'ai des romans qui ont fait ce boulot-là, et d'autres un peu moins. Et ça, je le remercie. Et je pense qu'il faut toujours remercier ces bouquins quand on en a écrit, parce que c'est eux qui vous permettent d'avancer, de dire et de peut-être faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un auteur, ça sème, mais ça ne sait pas ce qu'il va lever. Dans tous les milliers ou centaines de milliers de lecteurs que tu as pu avoir, tu ne sais pas ce que... Moi, quand je fais des signatures, c'est ce que j'aime. C'est quand quelqu'un... revient après avoir lu dans une signature, dans un salon, comme ça, comme c'est à Nancy, et qui dit ce livre-là, vous savez, ce livre-là. Voilà. Et un jour, un gars, il m'aurait fait quasiment pleurer, il m'a dit, vous voyez ce livre-là, c'était le chant de personne. Je l'achète pour le lire à mon enfant qui n'est pas encore né. Il attendait un enfant, il n'était pas né, il a acheté un livre pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand tu obtiens ça, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu es heureux, tu es fier, tu es ému. Tu comprends, tu trouves ça parfaitement disproportionné, mais ça ne fait rien, tu prends. Tu sèmes, ça, c'est levé de cette façon-là. Et d'autres ont acheté sans que ça ait de conséquences pour eux. Je vais vous raconter une anecdote récente. J'envoie quelqu'un m'envoie un SMS. Je suis Didier Gouy. Je pourrais vous le montrer, hein, il est tout à fait vrai. Est-ce que je suis bien ? C'est Daniel Picouli, on s'est connus. Normalement, je lui dis oui, je ne sais pas qui c'est, moi. Je lui envoie un mot pour lui dire, moi, je ne connais pas de Didier Gouy, je suis étonné qu'il soit dans mon livre. Et après, il dit, moi, non, je ne m'appelle pas Gouy, je m'appelle Gouni. Oh, je fais un Gouni. Ouais, j'ai dit, à chaque fois que j'achète un pudding, je pense à toi, parce que quand on rentrait du lycée, qu'on avait faim et tout ça, on s'achetait un pudding en marchant et on discutait, on a sûrement refait le monde en mangeant un pudding. De ce mec-là, j'y pense. Mais Gouy, je ne connais pas. Mais Gouni, ça, c'est un vrai souvenir. Et on va certainement se revoir, mais c'est ça aussi, c'est quelque chose. Parce que, tout comme, bon, il y a les œuvres, mais... Vous n'imaginez pas l'empreinte que vous avez eue sur vos copains, vos copines. Vous, croyez-moi, des potes de quatrième, des potes de troisième, hein, des fois c'est pour la vie, hein, dans vos souvenirs parfois, dans la relation, mais aussi parfois simplement, je vous dis, Gouni, classe de seconde, pudding. Si vous voulez. Et c'est pour la vie, parce que j'adore le pudding. Voilà. Ça vous paraît un peu étrange, mais vous aurez comme ça de ces liens avec votre histoire qui surgiront sur un SMS d'un mec qui croit s'être trompé de téléphone. Bah, c'est pas mal, non ?
Ouais, c'est magnifique même. Alors, encore une question, puis après on écoutera à nouveau une de vos productions.
Tu vous rends-t-il optimiste ou inquiet ?
Est-ce que le monde tel qu'il est me rend optimiste ou inquiet ? Bah, je suis les deux. Tu sais, par exemple, là, j'ai jamais été aussi inquiet par rapport à la situation depuis que ma fille, celle pour les, à cause desquelles je porte des chaussures rouges, est allée au Vietnam. Elle est au Vietnam, elle m'envoie des posts avec des photos. Ils sont une bande de potes, elle a 28 ans, hein, une bande de potes. Et c'est fabuleux, le Vietnam, c'est fabuleux. Et même dire, quand je pense qu'on va retrouver notre vraie vie, alors qu'on a l'impression que notre vraie vie, elle est au Vietnam. Bon, elles vont revenir, bien évidemment, parce qu'elles ont un boulot, elles ont une vie et tout ça. Mais quand j'entends ça, je suis très heureux pour ce qu'elle fait et très inquiet. Parce que quand tu vas au Vietnam, tu vas faire... Il y a un avion que tu vas prendre à Saigon pour aller à Doha. C'est-à-dire que tu vas passer par un hub dont il n'est pas du tout certain qu'il fonctionnera et pourra te ramener à Paris. Donc, au lieu d'être... je redeviens un père qui s'inquiète parce que sa môme, elle est dans cet imbroglio international où ma gosse et ses potes, c'est rien du tout, hein, c'est rien. Mais moi, l'autre nuit, j'ai entendu une sonnerie en pleine nuit, 2h du matin. Et j'ai tout de suite pensé, tiens, s'il y a une merde avec ma fille pour son retour. Et en fait, vous savez que quand il y a une coupure Internet, vous avez une sonnerie qui se déclenche pour vous prévenir qu'il y a eu une coupure Internet. Mais quand c'est à 2h du matin, ça ne vous rassure pas. C'est tout. Donc toi, inquiet, pas inquiet. Moi, j'ai confiance en elle, bien sûr. Mais moi, le monde, j'ai moins confiance en toi. C'est tout.
Merci. Une autre question ? Encore avant de lire un texte à nouveau. Oui. Vas-y.
Quel élève est chez vous au collège ?
Comment ? Quel ?
Quel élève est chez vous au collège ?
Chiant. au collège, j'ai un peu toute ma scolarité. Hein, toute ma scolarité. D'ailleurs, quand le premier jour de ma première classe devant une classe, je leur ai dit, écoutez. Je vais vous dire, je ne supporterai pas dans la classe des élèves qui me ressemblent. Je vous préviens. C'est une plaisanterie. Et en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que j'étais un prof autoritaire. Autoritaire. C'est-à-dire, moi, j'ai enseigné beaucoup en banlieue, dans le 93 et tout ça. J'ai dit, écoutez, moi, je viens du 93, hein, comme vous. Et moi, je ne suis pas là pour que vous y restiez toute votre vie dans le 93. D'accord ? Moi, je suis là pour qu'on réussisse, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ce n'est pas vrai. J'ai des super potes, des gens que je vois encore de mes premières années. Mais j'ai dit, mon job à moi, c'est de vous en sortir. Point. Point. C'est mon job. Et je vais m'y tenir. Et s'il faut pour ça que je sois un peu raide de temps à autre, bah, je le saurai. J'ai dit, je ne suis pas là pour avoir le prix de camaraderie. Je leur disais. Je ne suis pas là pour avoir le prix de camaraderie. Je sais que c'est, mais je vous aime, mais je ne suis pas là pour avoir le prix de camaraderie. Et c'est une formule que j'aimais bien et qu'il comprenait. Et moi, j'ai des relations avec des élèves d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et c'est formidable. Ils me rappellent des trucs comme ça. Mes élèves, en classe de terminale, ils m'avaient acheté un T-shirt. Et toi, quand je vois ton truc vert, ils m'avaient acheté... aussi un vert, parce que je suis toujours habillé en noir. Enfin, monsieur, non, quand même, vous pourriez mettre un peu de couleur. Donc, il m'avait acheté, c'était mon anniversaire, un truc que je n'ai pas porté, parce que je ne porte pas de vert, moi. Je ne porte pas de vert. Hein, mais disons, en tout cas, qu'avec eux, je me sentais bien, et de tous les niveaux que j'ai fait. Hein, j'ai fait 23 ans de prof. Hein, donc, j'ai vu passer quelques élèves, et j'ai toujours été fier de retrouver, parfois, quand t'es prof, tu fais tes courses et tu te butes avec ton caddie contre un ancien élève. Alors, des fois, c'est très sympa. Une fois, un élève, hey, monsieur, franchement, les torts de ferrite. Attends, les torts de ferrite. Je dis quoi, les torts de ferrite, monsieur. Ça bascule pas. Ça bascule pas. Non, moi, je faisais des cours d'informatique avec un truc comme ça. Là, il m'a dit ça d'emblée, comme ça. Il m'a dit, mais c'est des conneries, ça. J'ai dit, non, c'est une image. C'est une image. Mais de savoir quelle trace vous avez laissée, bah, des fois, c'est des choses aussi simples que ça. Non, monsieur, les torts de ferrite. Franchement, j'avais oublié les torts de ferrite, je peux vous le dire. Bon.
Ouais. Alors, merci Daniel, mais tu n'as pas répondu à la question.
Mais parce que je l'ai oublié, allons-y. Alors, c'était quoi la question ?
C'était non pas quel prof tu as été, mais quel élève tu as
été.
Non,
mais j'étais un élève. Je dis chiant parce que c'est vrai que d'abord j'aimais bien comprendre pourquoi on me contraignait à faire telle ou telle ou à apprendre telle ou telle chose. Moi, j'ai toujours. Je pense qu'il n'y a pas assez parfois de justification des connaissances qu'on apprend. Pourquoi on est môme, moi j'adorais ça quand même. Pourquoi on étudie Sparte et Athènes ? Pourquoi on étudie l'Empire romain ? Pourquoi ? Si on m'explique ce qu'il en a été, et puis même à la limite aujourd'hui, on pourrait m'expliquer, et je pense que les profs le font, que les Romains d'aujourd'hui sont les colonisateurs d'aujourd'hui. Hein ? C'est-à-dire, c'était un empire qui était contre tout le monde. Vous regardez une carte avec l'Empire romain, 500, et vous dites, ils ne pourront jamais tenir. Et ils n'ont pas tenu. Et ils n'ont pas tenu. Mais ça, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pas qu'on parle de telle dynastie, même pour l'Égypte. C'est extraordinaire, l'Égypte. Mais merde, il y a des trucs à m'expliquer pourquoi je me passionne pour l'Égypte. Bah, ça ne va pas parce que c'est pas parce que c'est au programme. Donc ça peut être chiant, mais les profs le faisaient très, très, très gentiment. Ils m'expliquaient. Ils disaient, on va le calmer, lui, et puis c'est tout. Quoi. Donc, il y en a qui me foutaient à la porte. Mais je veux dire, c'est simplement. En gros, l'élève que j'ai été, il m'a permis d'être un prof peut-être plus attentif, justement, à ça. C'est-à-dire de justifier. Je ne suis pas une autorité immanente qui, parce que je dis il faut étudier ça, il faut que ce soit étudié ou il faut le faire. Et tout. Je ne suis pas ça. Donc, j'ai fait comme ça et j'espère avoir fait comme ça en tant que prof. Je pensais toujours à cet élève chiant que j'avais été. Mais très, j'adorais l'école. J'ai ramassé des sous à une époque pour pouvoir payer des études. Ma mère ne pouvait pas me payer d'aller à l'étude. Vous savez, à 4h30, on ferme, on reste à l'école. Et de 5h à 6h, on est à l'étude. Et puis, on est avec les potes. Et puis, on peut. L'instituteur est là et puis vous apprend tout ça. C'est quasiment un cours particulier. Moi, je rêvais de ça, comme ça. Parce que je voulais étudier. Et ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. J'ai été élève comme ça. Et même jusqu'en terminale, au bac. Et je me souviens avec mon copain Mich, que j'adore. J'ai fait mes études après avec lui. Lui, il avait décidé qu'on irait en fac de droit. En fac de droit à Assas. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous êtes d'Orly, et des HLM d'Orly, c'est... Un saut dans la stratosphère, hein. C'est un truc incroyable. Et j'ai dit, mais attends, ouais. Moi je veux bien qu'on y aille, mais moi je ne veux pas me faire taper par les Bourges. Hein. Taper par les Bourges. C'est-à-dire, et j'en ai parlé quand je parle de l'idée que quand certains d'entre vous êtes descendus dans la ville de Nancy, vous n'y étiez pas allé. Moi j'avais cette idée-là. Dans cette idée-là, c'est-à-dire que nous, on était des cités et que les gens qui étaient dans des pavillons, des machins et tout ça, ils savaient plus de choses que nous. Ils étaient mieux que nous. Les mecs, à âge égal, ils avaient vu plein de trucs. C'est, ils faisaient du ski, ils prenaient des leçons de piano, des trucs. Non. Et donc, je les ai fabulés, comme on dirait. Je les ai vus beaucoup plus forts qu'ils n'étaient. Et quand je suis arrivé en fac, on s'est inscrit avec mon pote Mich, je l'ai raconté, c'est pour ça que je vous le dis, on a commencé par se faire notre bureau dans la cave. Moi, j'ai fait mes études dans une cave de HLM qu'on a aménagée pour être isolé, parce qu'il y avait un peu de bruit un peu partout au-dessus, d'accord ? Et on était séparés. Et c'était le plus bel endroit. Aujourd'hui, où j'habite plus dans une cité, eh bien, mon bureau, c'est ma cave. C'est sombre, il y a la lumière dessus, et c'est tout, point. J'ai jamais, et je ne travaillerai jamais aussi bien que dans la cave de mes 18 ans, d'accord ? Donc, c'est ces choses-là, et après quand on rencontre des bourges, parce que je les appelais comme ça, on s'aperçoit qu'ils sont peut-être pas aussi forts que ça. Hein. Bon, bien sûr, ça m'impressionnait, un pote qui se mettait au piano, ou et ça, c'est une victoire définitive sur soi, pas sur les autres. Quand on s'aperçoit qu'on n'est pas si nul que ça, pas si mauvais que ça, et que si on bosse, on peut les éclater, parce que c'était ça le vocabulaire, on va les éclater. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour moi de très, très important. Et dans un coin de votre tête, de toute façon, et vous ne le direz pas et vous avez raison, il y a toujours ça. Les autres, ils en savent plus que moi. Ils sont plus cultivés, ils ont plus lu, ils ont plus vu, ils ont... Non. Vous allez les éclater.
Et c'est parti. Voilà. mais en attendant, on s'éclate à t'écouter. Et puis à écouter aussi les productions des élèves de la 4e du Collège Jean Lamour. Et je vous propose qu'on en écoute une nouvelle. Qui est-ce qui veut lire maintenant un des textes que vous avez écrits ? Ah, allez. Oui, bah le... allez, c'est parti. Ouais. Voilà, une petite mise en place, et puis on est bon. Voilà. Ça y est, on a choisi ? Allez, c'est parti. Parle bien devant le micro. Voilà.
Bonjour le futur monde. Non, bonjour le monde futur. À l'heure où je vais vous parler, le monde arrive à sa fin. Si je vous fais cette lettre, c'est pour vous prévenir de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Au monde du futur, le monde actuel est un enfer rempli de sang et de feu. Ce qui a provoqué cela, c'est la surconsommation, la déforestation et l'extermination des animaux. Il faut arrêter, utiliser les transports en commun, ne pas jeter les déchets, planter plus de végétation. Mais ce n'est pas le seul problème. Les guerres ont dévasté ce monde. Les humains tuent des humains pour territoire. Des enfants sont morts à cause des bombardements. Des parents perdent leurs enfants. Des bébés brûlent. Voilà notre monde. Pour éviter cela, vous devrez savoir vivre ensemble. Aucun jugement, ne pas avoir d'égo surdimensionnel. Être honnête et vous respecter. Les hommes, un message pour vous. Ne vous sentez pas supérieurs aux femmes. Ne faites pas des choses sans leur consentement. Des filles ont été violées et ce n'est pas normal. En Afghanistan, les filles sont destinées à être mariées et n'ont pas le droit de sortir sans hommes. Elles deviennent des garçons pour vivre et renoncent à leur vie de fille. Hashtag Bacha. Ne soyez pas comme nous. Ne marchez pas sur nos pas. Des gens dans le monde d'aujourd'hui ont du sang sur les mains, mais pas vous. Vive le monde, Abdullah.
Merci, merci. Je trouve ça très, très violent. Hein. Mais en même temps, c'est la réalité. Mais moi, je suis très touché par la lucidité que vous avez par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que moi, au même âge, j'avais cette même réflexion sur le monde. Mais peut-être le monde n'était-il pas aussi brutal à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Et je te sollicite pour donner ton avis parce que malheureusement aussi, l'heure tourne et l'émission touche à sa fin. Et peut-être, par conséquent, de nous donner le mot de conclusion en même temps.
Non, il n'y aura pas de conclusion.
Reste ouvert.
Non,
mais ouais,
voilà. Non, le monde, c'est une bestiole depuis toujours. Depuis toujours, une bestiole. C'est-à-dire qu'il y a des plus forts et des plus faibles. Bon. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appellerait une hypertrophie de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement puissants et qui peuvent, indépendamment du droit, parce qu'il y a des règles hein, de vie en commun dans le monde, peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent. Mais ce que moi, je vous conseillerais de faire, c'est... Pas conseiller, hein, vous faites ce que vous voulez. Ce livre... Là, quand je vous l'ai lu, il commence par « moi-je ». C'est-à-dire que, au-delà de ce que vous dites, qui sont non pas des généralités, mais qui sont la réalité d'une perception du monde, déforestation, n'hésitez pas à dire « je ». N'hésitez pas à dire en quoi tout ce qui se passe dans le monde vous touche vous, votre voisin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît tous des gens qui risquent de perdre leur boulot. des gens pour qui c'est difficile d'aller au supermarché et de remplir le caddie. Tous les jours, vous connaissez tout ça. Ou des gens qui... Cette prise de conscience-là, bien sûr, elle est puissante, elle est ardente et elle peut être dérangeante, mais elle vous implique plus que, non pas des généralités, ce ne sont pas des généralités, hein, c'est des choses qu'on entend, mais qui vous montrent conscient pratiquement de ce qui se passe. Parce que ce monde-là dont on parle, c'est tous les jours qu'il impacte tout le monde. Tous les jours et dans des situations, vous savez, vous pouvez avoir un ami qui est entrepreneur, il fait des réparations et tout, ou quelqu'un qui est infirmière et qui peut plus faire parce que l'essence coûte trop cher. Tout un tas de choses que vous avez à portée de main, c'est obligé. Et ça, faut pas en avoir peur. C'est pas du voyeurisme, c'est pas une espèce de témoignage comme ça. Pour mettre de la chair autour de principes. Non, c'est la réalité de ce qui vous impacte. Bien sûr que ça risque de nous toucher, de vous toucher quand vous ferez ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, le monde, il touche tout le monde. Moi, c'est idiot. Je vous ai raconté comment le fait que ma fille soit au Vietnam et qu'elle va avoir du problème pour rentrer, ça me touche aujourd'hui. À travers tout ce qui est dit, ce n'est pas une analyse, j'allais dire, mondiale de ce qui se passe. C'est « je suis touché par ça ». Comme je peux être touché par le fait qu'il y a actuellement, par exemple, moi ici je suis à Nancy, il y a un formidable salon, il est financé par des entreprises, par des sponsors, qui un jour peut-être peuvent retirer l'argent, ou alors ce qui se passe, et il y a des auteurs qui ne seront pas invités, parce que, ou vous n'aurez pas accès à certains auteurs, parce que le salon peut-être n'aura pas les moyens d'inviter les gens qu'il aimait inviter. Tout le monde est touché, tout le monde est touché. Et c'est ça qu'il y a de violent et d'insidieux, et qui en plus va croissant tous les jours. On découvre que demain n'est pas pour demain. Voilà.
Demain n'est pas pour demain. Eh bien écoute, vous avez 2 heures et je vous propose qu'on termine l'émission là-dessus. Alors merci Daniel, et puis merci à la classe de 4e du collège Jean Lamour. Oui. 4e D, voilà, précisons-le. Comme Daniel, ben voilà. Merci Madame Toussaint, merci Madame Le Sourd, et bravo à tous pour votre participation. Bravo.